La guérison, pour Henri Bataille. Ma chatte grise est ravie que je fasse du théâtre. Théâtre ou music-hall, elle n'indique pas de préférence. L'important est que je disparaisse tous les soirs, la côtelette avalée, pour reparaître vers minuit et demi, et que nous nous attablions de rechef devant la cuisse de poulet ou le jambon rose. 3 repas par jour au lieu de 2. Elle ne songe plus, passé minuit, à sceller son allégresse. Assise sur la nappe, elle sourit sans dissimulation, les coins de sa bouche retroussés et ses yeux, pailletés d'un sable scintillant, reposent larges ouverts et confiants sur les miens. Elle a attendu toute la soirée cette heure précieuse, elle la savoure avec une joie victorieuse et égoïste qui la rapproche de moi. Ô chatte en robe de cendre ! Pour les profanes, tu ressembles à toutes les chattes grises de la terre, paresseuses, absente, morose, un peu molle, neutre, ennuyée. Mais je te sais sauvagement tendre et fantasque, jalouse à en perdre l'appétit, bavarde, paradoxalement maladroite et brutale à l'occasion autant qu'un jeune dogue. Voici juin, et je ne joue plus la chair, et j'ai fini de jouer Claudine. Fini nos soupers tête à tête. Regrettes-tu l'heure silencieuse où, affamée, un peu abruti, je grattais du bout des ongles ton petit crâne plat de bête cruelle, en songeant vaguement « ça a bien marché ce soir ». Nous voilà seuls, redevenus casanières, insociables, étrangères à presque tout, indifférentes à presque tous. Nous allons revoir notre amie Valentine, notre relation convenable, et l'entendre discourir sur un monde habité, étrange, mal connu de nous, plein d'embûches, de devoirs, d'interdictions, monde redoutable, à l'en croire, mais si loin de moi que je le conçois à peine. Durant mes stages de pantomime ou de comédie, mon amie Valentine disparaît de ma vie, discrète, effarée, pudique. Je ne sais plus rien d'elle, qui m'ignore. C'est sa façon, courtoise, de blâmer mon genre d'existence. Je ne m'en offusque pas. Je me dis qu'elle a un mari dans les automobiles, un amant peintre mondain, un salon, des thés hebdomadaires et des dîners bimensuels. Vous ne me voyez guère, n'est-ce pas, jouant la chair ou le faune en soirée chez Valentine ou dansant le serpent bleu devant ses invités? Je me fais une raison. Et puis je m'en fiche. J'attends. Je sais que mon ami convenable reviendra. Gentille, embarrassée, un de ces jours. Peu ou beaucoup, elle tient à moi et me le prouve, et c'est assez pour que je sois son obligée. La voici. J'ai reconnu son coup de sonnette bref et précis, son coup de sonnette de bonne compagnie. Enfin, Valentine, qu'il y a donc longtemps ! Quelque chose dans son regard, dans toute sa figure, m'arrête. Je ne saurais dire au juste en quoi mon ami est changé. Mauvaise mine ? Non, elle n'a jamais mauvaise mine sous le velours égal de la poudre et le frottis rose des pommettes. Elle a toujours son air de mannequin élégant, la taille mince, les hanches ravalées sous sa jupe de tussor blond. Elle a ses yeux bleu-gris vert marron, frais, fleuris, entre leurs doubles franges de cils noircis, et un tas de beaux cheveux blonds suédois. Qu'y a-t-il ? Un ternissement de tout cela, une fixité nouvelle dans le regard, une décoloration morale. Si je puis dire, qui déconcerte, qui arrête sur mes lèvres les banalités de bienvenue. Pourtant, elle s'assied. À droite, avirée dans sa longue robe, aplatie d'une tape son jabot de lingerie, sourit et parle. Parle. Jusqu'à ce que je l'interrompe sans diplomatie. « Valentine, qu'est-ce que vous avez ?» Elle ne s'étonne pas et répond simplement. « Rien, presque rien, vraiment. » Il ne m'aime plus. Il m'a quittée. Comment ? Henri, votre amant vous a quittée ? Oui, dit-elle. Ça fait juste 3 semaines aujourd'hui. La voix est si douce, si froide, que je me rassure. Ah, vous avez eu du chagrin ? Non, dit-elle avec la même douceur. Je n'en ai pas eu. J'en ai. Ses yeux deviennent tout à coup grands. « Grand ?» interroge les miens avec une âpreté soudaine. « Oui, j'en ai. Oh, j'en ai. Dites, est-ce que ça va durer comme ça ? Est-ce que je vais souffrir longtemps ? Vous ne connaîtriez pas un moyen. Je ne peux pas m'habituer.
Quoi faire ?
La pauvre enfant. Elle s'étonne de souffrir, elle qui ne s'en croyait pas capable.
Votre mari, Valentine, il n'a rien su ?
Non, dit-elle impatiemment, il n'a rien su. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Qu'est-ce que je pourrais faire ? Vous n'avez pas une idée, vous ? Depuis 15 jours, je suis là à me demander ce qu'il faut faire.
Vous l'aimez encore ? Elle hésite.
Je ne sais pas. Je lui en veux terriblement parce qu'il ne m'aime plus et qu'il m'a quittée. Je ne sais pas, moi. Je sais seulement que c'est insupportable. Insupportable, cette solitude, cet abandon de tout ce qu'on aimait, ce vide, ce...
Elle s'est levée sur ce mot d'insupportable et marche dans la chambre comme si une brûlure l'obligeait à fuir, à chercher la place fraîche.
Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous ne savez pas ce que c'est, vous...
J'abaisse mes paupières. Je retiens un sourire apitoyé devant cette ingénue vanité de souffrir mieux et plus que les autres.
Mon enfant, vous vous énervez. Ne marchez pas comme cela. Asseyez-vous.
Voulez-vous ôter votre chapeau et pleurer tranquillement ? D'une dénégation révoltée, elle fait danser sur sa tête tous ses panaches couleur de fumée.
Certainement non, que je ne m'amuserai pas à pleurer. Merci. Pour me défaire toute la figure et m'avancer à quoi, je vous le demande. Je n'ai aucune envie de pleurer, ma chère. Je me fais du mauvais sang, voilà tout.
Elle se rassied, jette son ombrelle sur la table. Son petit visage durci n'est pas sans beauté véritable en ce moment. Je songe que depuis 3 semaines, elle se pare chaque jour comme d'habitude, qu'elle échafaude minutieusement son château fragile de cheveux coûteux. Depuis 3 semaines, 21 jours, elle se défend contre les larmes dénonciatrices. Elle noircit d'une main assurée ses cils blonds. Elle sort, reçoit, potine, mange. Héroïsme de poupée. Mais héroïsme tout de même. Je devrais peut-être, d'un grand enlacement fraternel, la saisir, l'envelopper, fondre sous mon étreinte chaude, ce petit être raidi, cabré, enragé contre sa propre douleur. Elle s'écroulerait en sanglots, détendrait ses nerfs qui n'ont pas dû, depuis 3 semaines, faiblir. Je n'ose pas. Nous ne sommes pas assez intimes, Valentine et moi, et sa brusque confidence ne suffit pas à combler 2 mois de séparation. Et d'ailleurs, quel besoin d'amollir, par des dorlotements de nourrice, cette force fière qui soutient mon amie ? Les larmes bienfaisantes. Oui, oui, je connais le cliché. Je connais aussi le danger, l'enivrement des larmes solitaires et sans fin. On pleure parce qu'on vient de pleurer, et on recommence. On continue par entraînement jusqu'à la suffocation, jusqu'à l'aboiement nerveux, jusqu'au sommeil d'ivrogne, d'où l'on se réveille bouffi, marbré, égaré, honteux de soi et plus triste qu'avant. Pas de larmes, pas de larmes. J'ai envie d'applaudir, de féliciter mon amie qui se tient assise devant moi, les yeux grands et secs, couronnés de cheveux et de plumes, avec la grâce raide des jeunes femmes qui portent un corset trop long.
Vous avez raison, ma chérie, dis-je enfin.
Je prends soin de parler sans chaleur, comme si je la complimentais du choix de son chapeau.
Vous avez raison. Demeurez comme vous êtes. S'il n'y a pas de remède, de réconciliation possible,
il n'y en a pas, dit-elle froidement. Comme moi.
Non ? Alors ? Il faut attendre. Attendre ? Attendre quoi ?
Quel réveil tout à coup, quel fol espoir ! Je secoue la tête.
Attendre la guérison, la fin de l'amour.
Vous souffrez beaucoup, mais il y a pis. Il y a le moment, dans 1 mois, dans 3 mois, je ne sais quand, où vous commencerez à souffrir par intermittence. Vous connaîtrez les répits, les moments d'oubli animal qui vient sans qu'on sache pourquoi. Parce qu'il fait beau, parce qu'on a bien dormi ou parce qu'on est un peu malade. Oh, mon enfant, comme les reprises du mal sont terribles. Il s'abat sur vous sans avertir, sans rien ménager. Dans un moment innocent et léger, un suave moment délivré, au milieu d'un geste, d'un éclat de rire, l'idée, le foudroyant souvenir de la perte affreuse, tarit votre rire, arrête la main qui portait à vos lèvres la tasse de thé. Et vous voilà, terrifié, espérant la mort avec la conviction ingénue qu'on ne peut souffrir autant sans mourir.
Mais vous ne mourrez pas.
Vous non plus. Les trêves reviendront, irrégulières, imprévisibles, capricieuses. Ce sera vraiment terrible,
mais...
Mon ami m'écoute, moins défiante à présent, moins hostile.
Mais il y a pis encore.
Je n'ai pas surveillé assez ma voix. Au mouvement de mon ami, je baisse le ton. Il y a pis. Il y a le moment où vous ne souffrirez presque plus.
Oui, presque guéri. C'est alors que vous serez l'âme en peine, celle qui erre, qui cherche elle ne sait quoi, elle ne veut se dire quoi. À cette heure-là, les reprises du mal sont bénignes. Et par une étrange compensation, les trêves se font abominables d'un vide vertigineux et fade qui chavire le cœur. C'est la période de stupidité, de déséquilibre. On sent un cœur vide, ridé, flotter dans une poitrine que gonflent par instants des soupirs tremblants qui ne sont pas même tristes. On sort sans but, on marche sans raison, on s'arrête sans fatigue. On creuse avec une avidité bête la place de la souffrance récente. Sans parvenir à en tirer la goutte de sang vif et frais, on s'acharne sur une cicatrice à demi-sèche, on regrette. Je vous le jure, on regrette la nette brûlure aiguë. C'est la période aride, errante, que vient encore aigrir le scrupule, certes. Le scrupule. Le scrupule d'avoir perdu le beau désespoir passionné, frémissant, despotique. On se sent diminué, flétri, inférieur aux plus médiocres créatures. Vous vous direz, vous aussi. Quoi, je ne suis que cela, pas même l'égal du trottin amoureux qui se jette à la Seine. Oh, Valentine, vous rougirez de vous-même en secret jusqu'à... Mon Dieu, comme elle espère. Jamais je ne lui verrai d'aussi beaux yeux couleur d'ambre, d'aussi larges prunelles, une bouche aussi angoissée. Jusqu'à la guérison, mon ami, la vraie guérison. Cela vient, mystérieusement. On ne la sent pas tout de suite, mais c'est comme la récompense progressive de tant de peines. Croyez-moi, cela viendra je ne sais quand. Une journée douce de printemps, ou bien un matin mouillé d'automne, peut-être... Une nuit de lune, vous sentirez en votre cœur une chose inexprimable et vivante s'étirer voluptueusement. Une couleuvre heureuse qui se fait longue, longue. Une chenille de velours déroulée. Un desserrement, une déchirure soyeuse et bienfaisante comme celle de l'iris qui éclot. Sans savoir pourquoi, à cette minute, vous nouerez vos mains derrière votre tête avec un inexplicable sourire. Vous découvrirez, avec une naïveté reconquise, que la lumière est rose à travers la dentelle des rideaux, et d'où le tapis aux pieds nus, que l'odeur des fleurs et celle des fruits mûrs exaltent au lieu d'accabler. Vous goûterez un craintif bonheur, pur, de toute convoitise, délicat, un peu honteux, égoïste et soigneux de lui-même. Mon ami me saisit les mains. Encore, encore, dites encore! Hélas, qu'espère-t-elle donc? Ne lui ai-je pas assez promis en lui promettant la guérison? Je caresse en souriant ses petites mains chaudes. Encore, mais c'est fini, mon enfant. Que voulez-vous donc? Ce que je veux? Mais l'amour, naturellement. L'amour! Mes mains abandonnent les siennes. Ah, oui, un autre amour. Vous voulez un autre amour? C'est vrai, je n'avais pas pensé à un autre amour. Je regarde de tout près cette jolie figure anxieuse, ce gracieux corps apprêté, arrangé, ce petit front têtu et quelconque. Déjà, elle espère un autre amour, meilleur ou pire, ou pareil à celui qu'on vient de lui tuer. Sans ironie, mais sans attendrissement, je la rassure. Oui, mon enfant, oui. Vous aurez un autre amour. Je vous le promets.